Le message qui va suivre vous est présenté par l'église La Maison du Bâtisseur, avec pour orateur Luc Ondias, pasteur principal. Nous croyons qu'en l'écoutant, vous serez richement édifié en Christ. Pour plus de renseignements, vous pouvez nous contacter par téléphone au 04 65 60 56, par mail en nous écrivant à contact@lamaisondubâtisseur.com ou en vous rendant sur notre site internet www.lamaisondubâtisseur.com. Nous vous souhaitons une agréable écoute. Que Dieu vous bénisse.
Alléluia. Voilà pourquoi il est souvent impressionnant et remarquable de constater que Satan souvent discerne la destinée d'un enfant de Dieu avant lui. Voilà pourquoi, au nom de Jésus, cette année, tes yeux seront ouverts et tu verras clairement l'appel que le Seigneur a déposé sur ta vie. Mais sache que l'ennemi enverra des agents pour te stopper, pour empêcher ton progrès, pour empêcher ta croissance, pour empêcher ta croissance, ta multiplication. Alors nous allons élever nos voix et nous allons nous adresser à tous les ennemis de notre prospérité au nom de Jésus-Christ. Et tu vas dire: toute association de démons envoyée contre moi ou même un membre de ma famille au nom de Jésus, qu'ils soient consumés par le feu, qu'ils soient renversés, que tous leurs plans échouent au nom de Jésus, et que ma vie rayonne, qu'elle brille pour la gloire de Christ, et que tout démon de l'enfer contre ma vie soit consumé au nom de Jésus-Christ. Saison de croissance, saison de multiplication au nom puissant de Jésus-Christ. Maintenant, tu vas élever la voix avec moi et tu vas dire: Seigneur, que cette saison soit marquée du sceau divin par une accélération divine dans tous mes projets et dans tous les domaines de ma vie, et que tout démon qui se tiendra devant moi pour m'empêcher d'aller de l'avant. Parce que le Seigneur m'accélère. Je vais beaucoup trop vite pour lui. Il ne peut pas me stopper au nom de Jésus. Alors tu vas élever la voix avec moi de manière prophétique sur cette saison. Et tu vas décréter une accélération en cette saison. Là où tu étais en retard, maintenant tu progresses. Là où tu avais pris du retard, maintenant tu progresses. Au nom de Jésus-Christ. Ma papa rebosta. Yekete yaba. Yekete yaba. Accélération divine au nom de Jésus-Christ. Je déclare et je décrète une accélération sur ma destinée, une accélération sur mes finances, une accélération sur tout ce que je fais au nom de Jésus-Christ. Yeah, c'est ma saison.
C'est ma saison, c'est ma saison.
Oh, oh, oh.
C'est ma saison, c'est ma saison, c'est ma saison.
Décrétons au nom de Jésus que cette saison est notre saison au nom de Jésus. Père, je prie que tu illumines les yeux, Seigneur, de nos cœurs afin que tes enfants, Seigneur, voient la saison dans laquelle tu les as fait entrer. Ce serait une tragédie que d'être entré à Canaan, la terre où coule le lait et le miel, et ne pas profiter, Seigneur, des productions de la terre. De ne pas profiter, Seigneur, de ne pas jouir des grâces et des faveurs de cette terre. Alors ouvre les yeux de ton peuple. Suscite dans leur cœur le courage, la foi et la force de se mettre en marche maintenant. Car c'est notre saison. Nous avons décrété cette saison, la saison de la moisson, des signes et des miracles. Nous ne courons pas après les signes. C'est eux qui courent après nous au nom de Jésus-Christ. Nous ne courons pas après les miracles. C'est eux qui courent après nous. Voilà pourquoi nous décrétons que cette saison est une saison de moisson miraculeuse. Moisson miraculeuse dans tous les domaines de nos vies, dans nos finances, dans moisson spirituelle, moisson dans tous les aspects de nos vies au nom puissant de Jésus-Christ. Accomplis des choses extraordinaires qui dépasse notre entendement, Père. C'est notre saison. Je le déclare et je le décrète. Saison de multiplication sur ta vie. Saison de faveur. Saison de croissance. Saison de grâce. Saison de victoire. Saison de percée. Au nom puissant de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un croit et reçoit son miracle? Acclamez le Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Matataye Bosta. Est-ce qu'on peut faire bouger les murs de Jéricho ici? Au nom de Jésus-Christ. Makata. Oh. Yeah. Alléluia. Alléluia. Dis avec moi, c'est ma saison. Au nom de Jésus-Christ, est-ce qu'on peut encore acclamer bien fort le Seigneur? Alléluia. Avant de t'asseoir, je voudrais que tu trouves trois personnes et que tu le regardes bien dans les yeux et que tu dis, cette année, c'est ta saison. Au nom de Jésus-Christ. Dis-le-lui. Alléluia. Excellence en Christ, bien-aimé dans le Seigneur, bonjour. Bonjour tout le monde. Bienvenue encore à l'Assemblée des Saints. Bienvenue à l'Assemblée Générale Sentinelle du Royaume des Cieux. Même bienvenue à la réunion des parlementaires de Christ. Je vais baisser un petit peu mon micro. Un petit peu. Alléluia. Bienvenue à la rencontre des parlementaires de Christ. Avec moi, nous sommes en conseil des ministres. Et nous allons parler des affaires du Royaume. Amen. C'est une grâce pour nous d'être là chaque dimanche. Et cette agressivité dans la foi que j'ai, mon souhait, c'est de vous communiquer ça. Amen. Parce que tout simplement, c'est impressionnant de voir comment les enfants de Dieu au Gabon se relâchent très rapidement. Amen. Et c'est avec beaucoup d'étonnement que je constate que beaucoup d'entre nous, vous êtes vraiment relâchés depuis la conférence mandat. C'est vraiment impressionnant. C'est-à-dire, mandat est arrivé comme un bulldozer. Boum! Ça a tué tout le monde. Dès que mandat est parti, c'est comme si tout le monde retourne aux vieilles habitudes. Mais c'est ça qui est dangereux, en fait. C'est-à-dire, quand Dieu vous parle, la parole arrive, vivez un événement fort, mais vous n'avez pas discerné ce qui s'est passé. Retournez aux vieilles habitudes. Un peu comme Pierre, il n'a pas discerné ce qui s'est passé avec Jésus à la croix et qui est retourné à la pêche comme avant, au point même de se remettre nu comme avant. Il était retourné à sa vie, son ancienne vie, alors que le Seigneur leur avait donné un mandat. Amen. Et le Seigneur était obligé lui-même de revenir pour leur expliquer, mais réveillez-vous là, il s'est passé quelque chose là. Et mon souhait, c'est de nous communiquer cette agressivité là. Quand Dieu a ouvert une porte, il ne faut plus dormir, il faut foncer là. Parce que l'attitude que l'on va adopter en ce début d'année va déterminer la suite. Ça va déterminer la suite, je vous assure. Ce n'est pas en mars, avril, mai, juin, juillet que vous allez vous réveiller. C'est là qu'il faut se réveiller, les amis. Et tout est spirituel. Et on voit déjà l'attitude des gens, le spirituel. Voilà pourquoi, même pendant la semaine, je suis étonné de voir que beaucoup d'entre vous, vous ne venez pas pendant les prières. On a de merveilleux temps de prières prophétiques, des veillées de prières, etc., qu'on décrète. Mais il y en a, vous ne venez pas. Vous êtes vraiment des chrétiens du dimanche. Quand on va vers quelqu'un, il dit, j'espère que tu n'es pas un chrétien du dimanche. Hein, vraiment. Hé hey. Chrétiens du dimanche, ceux-là, ils ne vivent pas le royaume vraiment. Les chrétiens qui vivent le royaume sont ceux qui sont violents et qui marchent avec le Saint-Esprit tous les jours. Amen. Mais cette année, c'est ta saison. Moi, je crois même à toi plus que toi-même. Plus que toi-même, je crois. C'est pour ça que je serai toujours positif et optimiste. Je vais toujours continuer à prophétiser sur ta vie. Cette saison, tu vas briller, tu vas rayonner, tu vas percer au nom de Jésus-Christ. Je vais te répéter ça jusqu'à ce que ça rentre dans ta caboche. Au nom de Jésus. Parce que je ne veux pas que le 31 décembre, tu sois encore au même point. Il faut que tu aies progressé. Alléluia. Et par la grâce de Dieu, nous allons aller de gloire en gloire. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer la personne du Saint-Esprit? Gloire à Dieu. Amen. Dis avec moi la révélation du royaume. C'est un sujet très très intéressant. Et il y a encore beaucoup de choses que le Seigneur par sa grâce m'a montré encore et dans lesquelles je vais encore nous emmener dans les prochaines semaines. Et juste pour rappel, nous sommes toujours dans notre étude du roi. Les attributs du roi, le sceptre, la couronne et l'encensoir. La couronne qui symbolise le pouvoir ou encore la puissance du roi que nous sommes. Car Jésus-Christ est appelé le roi des rois. Amen. Et avec moi, je suis roi. Je suis reine. Et c'est important de faire le contour en fait de cet enseignement. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Et tu vas ouvrir ta vie avec moi dans le livre de Marc. Chapitre 4. On va d'abord commencer à lire un verset. Livre de Marc, au chapitre 4.
Je voudrais d'abord voir si tu sors ta Bible avant de l'afficher au mur. Regarde celui qui est assis à côté de toi et regarde s'il a une Bible. S'il n'a pas une Bible, dis-lui, si tu me donnes 500, je te donne ma Bible. Amen. Livre de Marc, au chapitre 4. On va lire à partir du verset 10. Où il est écrit, « Lorsqu'il fut en particulier, en parlant de Jésus, ceux qui l'entouraient avec les 12 l'interrogèrent sur les paraboles. Il leur dit, c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Mais pour ceux qui sont dehors, tout se passe en paraboles, afin qu'en voyant, ils voient et n'aperçoivent point, et qu'en entendant, ils entendent et ne comprennent point, de peur qu'ils ne se convertissent et que les péchés ne leur soient pardonnés. Il leur dit encore, vous ne comprenez pas cette parabole. Comment donc comprendrez-vous toutes les paraboles? » Amen. De quelle parabole il nous parle ici? Eh bien, ça, c'est un verset qui vient juste après la parabole du semeur. Amen. La parabole du semeur est la parabole de toutes les paraboles. Si tu ne comprends pas la parabole du semeur, tu ne peux pas comprendre les paraboles de Jésus. Alléluia. C'est la parabole la plus importante de toutes les paraboles parce qu'elle résume totalement la mentalité que l'on doit avoir dans le royaume de Dieu. Jésus-Christ leur dit, si vous ne pigez pas cette parabole, je ne peux pas vous continuer à vous enseigner parce qu'elle est trop importante. C'est la clé de voûte de tout mon enseignement. Et il dit, d'abord, lorsqu'il fut en particulier, j'ai mis un accent sur particulier, pourquoi ? Parce que juste après, il dit, pour ceux qui sont dehors, tout se passe en parabole. Mais vous qui êtes en particulier, je vous explique les paraboles. Il y a une différence entre les gens qui sont dehors et nous. C'est que nous, grâce à l'enseignement, nous arrivons à comprendre les secrets et les mystères cachés dans la Bible. Et la Bible, c'est le livre de la vie. Si tu lis la Bible et que tu ne comprends toujours rien, c'est parce que ton esprit n'est pas encore ouvert sur les mystères de la Bible. Donc, il faut prier que le Saint-Esprit t'ouvre les yeux pour que tu comprennes ça. Parce que quelqu'un qui n'a pas compris, qui ne comprend pas les paraboles de Jésus, qui ne comprend pas la Bible, a manqué lamentablement son héritage sur la terre, en Christ. Amen. C'est pour cela que c'est important d'étudier la Bible, comprendre les enseignements, de réécouter les enseignements et bien entendu de les mettre en pratique. Alléluia. Donc, celui qui comprend les enseignements de Jésus acquiert la sagesse. Dis avec moi la sagesse. Qu'est-ce que c'est que la sagesse? Pour définir la sagesse, c'est la compréhension de la parole de Dieu et la mettre en pratique. Ça, la sagesse. Donc, celui qui comprend la parole et qui la met en pratique devient sage dans le royaume de Dieu. C'est pour cela que Jésus-Christ donne encore une autre parabole en disant, celui qui écoute mes paroles et qui les met en pratique est semblable à un homme sage qui a construit une maison sur le roc. La tempête a soufflé et la maison ne s'est pas écroulée. Mais celui qui entend ma parole et ne la met pas en pratique parce qu'il veut faire ce qu'il veut de sa vie est semblable à un insensé qui bâtit sa vie sur du sable et le jour où la tempête souffle, où les problèmes arrivent, sa maison s'écroule. Alléluia. Et là, nous parlons depuis plusieurs mois maintenant mystère de la sagesse. Dis avec moi le mystère de la sagesse. Pourquoi? Parce que la couronne, notre couronne, qui est le symbole de notre pouvoir et de notre puissance dans l'esprit, eh bien, cette couronne-là, elle se caractérise par la sagesse que nous avons dans ce que nous faisons dans la vie au quotidien. Celui qui a la parole de Dieu, qui la comprend et qui sait la mettre en pratique, est quelqu'un de sage. Et quand on rentre dans la sagesse, quand on étudie le sujet de la sagesse, on se rend compte que la sagesse a une sœur jumelle, qui est la richesse. La richesse n'est jamais loin de la sagesse. Donc depuis plusieurs semaines, nous sommes en train de parler du processus divin de création de richesse. C'est important de s'intéresser à la création de richesse. Parce que celui qui ne s'intéresse pas à la création de richesse, il finira pauvre dans sa vie. Et comme moi je suis un bon pasteur, dis tu es un bon pasteur. Ah, non, dis encore, tu es un bon pasteur. Dis encore, ça me fait du bien. Comme moi je suis un bon pasteur, je ne veux pas te voir finir pauvre. C'est pour cela que tout ce que Dieu m'a enseigné au sujet de la richesse, je te le donne. Alléluia. Le jour où tu comprends comment créer de la richesse, tu n'as même pas besoin de courir après les dîmes et les offrandes. Les pasteurs qui courent après les dîmes et les offrandes de leurs fidèles sont des pasteurs qui ne savent pas comment créer la richesse. Celui qui sait comment créer la richesse n'a pas besoin d'aller courir après les gens pour leur demander qu'on lui prête de l'argent. Il sait comment activer la richesse. La richesse se crée. La richesse s'attire. La difficulté que l'on a, c'est comment arriver à créer ce pont-là. Ce pont-là, ce sont des choses que l'on voit de manière beaucoup plus pratique quand on parle d'entrepreneuriat, d'investissement, etc. D'accord? Mais il est d'abord important de comprendre le principe, le pont. Amen. Et quand on parle de sagesse, on ne peut pas ne pas parler de création de richesse. Parce que Dieu est celui à qui appartient l'or et l'argent. Donc si ton Dieu, c'est-à-dire ton Père, est riche, alors tu es membre d'une famille immensément riche en Christ. Peut-être que Dieu ne t'appelle pas à être multimilliardaire demain. Mais une chose est sûre, Dieu s'intéresse à ton argent. Et Dieu ne veut pas que tu sois pauvre. Pourquoi? Parce que les enfants de Dieu ne sont pas pauvres. C'est une tragédie de trouver des pauvres dans l'église. Les pauvres qu'il y a dans l'église, l'église doit être capable d'en prendre soin. Mais si l'église elle-même est pauvre, elle ne peut pas prendre soin des pauvres. Donc Dieu rêve de cette église suffisante, prospère et abondante, qui peut prendre soin des démunis et des défavorisés. Alléluia. Mais si nous-mêmes on est pauvres, comment on va s'occuper des gens? Il y a deux jours de cela, je me suis levé à 3h du matin. Enfin, à minuit, j'ai prié à minuit. J'ai prié jusqu'à 2h du matin. Après, je suis resté éveillé jusqu'à 5h du matin. Puis, j'étais en train de travailler. Et puis, j'ai encore posé cette question, cette éternelle question au Seigneur en lui disant, « Seigneur, comment faire pour que tous les enfants de ton église soient propriétaires de leur maison de vin ?» Là, le Saint-Esprit m'a expliqué. C'est la première fois qu'il m'a expliqué. J'aime parler de ça à ma femme. J'ai dit, « C'est fort ça !» Et je vais d'abord prendre le temps de mûrir le projet. Ensuite, je vous présenterai ça. Mais il faut le commencer aujourd'hui parce que c'est un projet qui va se faire sur plusieurs années. Et ce que le Saint-Esprit m'a expliqué, c'est que même celui qui est étudiant aujourd'hui deviendra propriétaire demain. Je t'assure, on va faire quelque chose que les églises ici n'ont jamais fait. Et si tu embrasses ce projet et que tu t'associes à nous dans ce projet, je t'assure, dans quelques années, tu seras propriétaire de ta maison au travers de l'église. Alléluia. Dis-moi la sagesse. Ouais, la sagesse. Et aujourd'hui, je vais me focaliser sur le miracle de la semence. Dis avec moi, le miracle de la semence. Ouais. Voilà pourquoi, depuis plusieurs semaines, nous voyons les différents piliers du processus divin. Juste pour récapituler très rapidement, nous avons commencé d'abord à parler de la dîme et de l'épargne. Nous avons dit que la dîme et l'épargne représentent la phase 1 de ce processus qui constitue la protection de notre argent. Pourquoi? Parce que dans chaque compartiment, car il y en a trois, il y a un aspect spirituel et un aspect naturel. La dîme est le pilier spirituel de la protection de nos finances. Mais la dîme ne consiste pas juste à protéger nos finances, elle consiste aussi à protéger notre santé. Car c'est d'abord notre santé qui doit bien se porter pour pouvoir créer de la richesse. C'est pour ça que quand on te parle de la dîme dans la Bible, on la lie aussi à la santé. Amen. Ensuite, nous avons parlé de l'importance d'épargner. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas donner ta dîme, ne pas épargner. Lorsque tu donnes ta dîme, dans le naturel, Dieu a besoin de commencer toujours avec quelque chose que tu vas lui donner. Dieu ne commence jamais avec rien. C'est pour cela que lorsqu'il dit, donnez-leur vous-même à manger, il leur dit, qu'avez-vous? Nous n'avons que. Il dit, même si vous n'avez que deux pains et trois poissons, c'est bon pour moi. Je peux commencer. C'est important quand tu t'attends à ce que Dieu te bénisse, d'abord de lui donner quelque chose. Nous, on veut que Dieu nous bénisse, mais on ne lui donne jamais rien pour commencer. Il faut que tu donnes d'abord et ensuite Dieu commence à travailler. Le second compartiment que nous allons ouvrir aujourd'hui est celui de l'investissement. Dis avec moi investissement. L'investissement. Et là, je vais m'attarder un tout petit peu là-dessus. Et le troisième compartiment, c'est le compartiment de la dépense. Dans le compartiment de l'investissement, Il y a aussi un aspect spirituel et un aspect naturel. L'aspect spirituel, c'est le principe de la semence et de l'offrande. Et je vais commencer à expliquer ce que c'est que la semence et l'offrande. Et l'aspect naturel, c'est-à-dire de manière pratique dans la vie de tous les jours, c'est l'investissement. Et les enfants de Dieu que nous sommes, on doit s'intéresser à l'investissement. Et je vais vous démontrer avec la parole de Dieu que l'investissement occupe une place très importante dans l'enseignement de Jésus. Alléluia. Et le troisième compartiment qui est celui de la dépense, il n'y a pas de pilier spirituel, tout simplement parce que dans le royaume, on ne dépense pas. Tout est gratuit dans le royaume. Alors, tout est à nous. On ne dépense que dans la vie. Et ça, c'est le processus divin de création de richesse. Alléluia. Donc, Jésus-Christ leur dit, si vous ne comprenez pas cette parabole du semeur, je ne pourrais pas vous expliquer la suite. Ok? Toute la vie repose sur la parabole du semeur, sur le principe de la semence. Donc là, on passe maintenant à la phase où on commence à activer le divin pour récolter. Amen. Et pour ça, je vais aller plus loin. Et on va prendre nos Bibles, le principe de la semence et de l'offrande. On va prendre nos Bibles et on va continuer à lire, toujours dans le livre de Marc, au chapitre 4. Cette fois-ci, on va lire à partir du verset 26. Le Seigneur continue de leur parler. Au verset 26, la Bible nous dit, il dit encore, il en est du royaume de Dieu. Ah, qu'est-ce que j'aime ce verset. Oh là là. Il en est du royaume de Dieu comme quand un homme jette de la semence en terre. Dis avec moi, le royaume de Dieu, c'est semblable à un homme qui jette une semence en terre. Lorsque cet homme a jeté la semence en terre, Jésus-Christ nous dit, qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. La terre produit d'elle-même d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain, tout formé dans l'épi. Et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille, car la moisson est là. Dis-moi, la moisson est là. Je t'ai dit que ta moisson est là. Cette année, ce n'est pas l'année où on doit transpirer. C'est l'année où on doit récolter. C'est l'année où tu dois prendre ta faucille et aller chercher ce qui t'appartient de droit dans l'esprit. Et pour l'amener à l'existence, tu vas devoir juste activer, poser des actions. Et je t'assure que cette saison qui va être distinguée par la faveur, dès que tu vas seulement activer, tu vas juste voir les flots tomber. Car la moisson est là. Il dit encore, à quoi comparerons-nous le royaume de Dieu? Ou par quelle parabole le représenterons-nous? Il est semblable à un grain de sénévé qui, lorsqu'on le sème en terre, est la plus petite de toutes les semences qui sont sur la terre. Mais lorsqu'il a été semé, il monte, devient plus grand que tous les légumes et pousse de grandes branches, en sorte que les oiseaux du ciel peuvent habiter sous son ombre. C'est par beaucoup de paraboles de ce genre qu'il leur annonçait la parole, selon qu'ils étaient capables de l'entendre. Il ne leur parlait point sans paraboles, mais en particulier, dis avec moi en particulier, il expliquait tout à ses disciples. Dis avec moi, tu es un bon pasteur. Parce que moi, je vous explique tout en particulier. La moisson est là. Comment tu sais que la moisson est là? Dit Jésus. Parce que tu as planté une semence. Dis-moi, si notre terre est fertile, t'imagines un peu quelqu'un qui décide de se lancer par exemple dans l'agriculture. Il a choisi une bonne terre, soi-disant, et il a planté des graines. Et il revient des mois et des mois après, et puis il voit que ça n'a rien produit. Il va dire, la terre est fertile ou pas? Il y a un problème. On a arrosé, on a tout fait, on a semé, mais ça ne rapporte rien. Il y a un problème. Jésus-Christ dit que dans le royaume et même dans le monde, c'est quelque chose d'impossible. La terre, quand tu plantes, elle produit d'elle-même moisson. Sans forcer, quand tu as planté, par exemple, un pied de banane, tu as planté, tu pars, tu laisses un an. Tu reviens dans un an, tu vois ton bananier a poussé. Qu'est-ce que tu as fait entre-temps? Tu as fait ta vie. Eh bien, au travers de cette parole-là, Jésus-Christ nous écrit simplement le principe de l'investissement. Jésus-Christ nous dit que, en fait, Si vous voulez être prospère dans la vie, trouvez des terres dans lesquelles vous allez semer. Et puis après, vous attendez juste votre moisson. Et quand j'ai compris cette parabole, le Saint-Esprit me dit, c'est ce qui fait la différence entre les riches et les pauvres. Le pauvre est celui qui va toujours chercher à travailler, à transpirer, à faire des efforts et des efforts et des efforts toute la vie pour gagner un peu d'argent. Le riche va prendre du recul et va observer avec intelligence la vie et il va trouver des choses ou des placements dans lesquels il va mettre un peu d'argent puis il laisse ça grandir. Pendant ce temps, il va jouer au golf. Et il revient plusieurs mois après et il se rend compte que ça a produit de l'argent. Voici la différence entre un pauvre et un riche. Mais, et les riches sont ceux qui ont beaucoup de terres où ils ont semé. C'est pour ça qu'ils récoltent beaucoup. Le pauvre, c'est celui qui soit il n'a rien pour semer, et là il est vraiment pauvre, ou soit il est trop stupide pour ne jamais semer quand Dieu lui fait la grâce un jour d'avoir un peu. Dès qu'il a un peu, il mange tout. Au lieu d'être intelligent et se dire, je ne dois pas tout manger, je dois prendre une partie et semer, que ça porte du fruit. Alléluia. Dis avec moi, la moisson est là. Jésus-Christ, tout accompli à la croix, introduit avec ça. En Christ, on n'a pas besoin de faire d'efforts. Pourquoi? Parce que l'œuvre rédemptrice de Christ a pourvu à tous nos besoins. Quand on parle de finances, et c'est ce que nous faisons en ce moment, nous sommes déjà bénis et Dieu a déversé abondamment en nos vies, en l'Église. Dieu a déjà tout donné. Éphésiens 1:3 dit, nous sommes bénis en Christ, de toutes sortes de bénédictions en Christ, dans les lieux célestes. Passion, parole, ils vont dire, Dieu a déversé avec profusion, c'est-à-dire avec abondance. Toutes les bénédictions qui étaient contenues dans les cieux, il les a déversées sur nous. Arrête-toi sur ce verset. Si Dieu m'a béni, toutes sortes de bénédictions contenues dans les lieux célestes, ça veut dire que non seulement je suis béni, mais je suis abondamment béni. C'est comme ça qu'il y a beaucoup de chrétiens qui perdent la foi parce qu'on leur dit ça d'un côté et puis ils ne voient rien de l'autre côté. Mais Jésus dit que non, dans l'esprit, tu es déjà béni. Tout a déjà été fait. Tout ce que tu as à faire, c'est de trouver la sagesse qu'il faut pour amener sa semence à l'existence. C'est tout. Mais tout est déjà là. Jésus-Christ dit qu'il veille ou qu'il dorme, ça produit du fruit. Ça travaille. Ce que je comprends avec cette parole, c'est que il y a des choses dans la vie qu'on n'a pas besoin de voir avec les yeux pour savoir que ça produit quelque chose. Aujourd'hui, avec tes yeux, tu ne peux pas voir ton propre cœur, n'est-ce pas? Et pourtant, ton cœur travaille. Ton cœur est là. Le jour où on t'enlève le cœur, c'est là où tu sors, tu avais un cœur. Ok? Le jour où la fille t'a dit, c'est fini entre nous, c'est là où tu as su que tu avais un cœur. Parce que ça a fait mal. Donc, nous sommes bénis en Jésus-Christ de toutes sortes de bénédictions. Parce qu'il a tout accompli. Tout ce qu'il nous demande, le Seigneur, c'est d'avoir de la sagesse, la prospérité, la paix, la guérison. Tout est à nous. Tout est à nous. Et si aujourd'hui le Seigneur nous donne cette parole, c'est parce que tout simplement Dieu m'a envoyé cette année, cette saison, pour t'ouvrir les yeux sur ce qui est à toi, ce qui est là. Parce que la moisson est là. Dis avec moi, la moisson est là. Ouais. Reste à trouver comment faire pour l'activer, cette moisson. Alléluia. Activer le surnaturel divin, c'est possible. C'est possible. C'est possible de marcher dans le miraculeux. C'est possible de marcher dans le surnaturel divin. C'est possible d'avoir une vie extraordinaire. C'est possible d'avoir une vie et les gens regardent et disent, comment tu fais? C'est possible. Dis avec moi, c'est possible. Dans le royaume de Dieu, c'est le naturel qui active le surnaturel. Amen. C'est le possible qui active l'impossible. C'est l'ordinaire qui active l'extraordinaire. C'est le visible qui active l'invisible. Pourquoi? Parce que chaque fois que tu vois surnaturel, impossible, extraordinaire, invisible, ça c'est de la responsabilité de Dieu. Mais chaque fois que tu vois naturel, possible, ordinaire et visible, ça c'est ta responsabilité. En d'autres mots, notre marche avec Christ, c'est une collaboration entre Dieu et nous. deux personnes marchent ensemble sans s'être mises d'accord auparavant. Non. Donc, cette saison, tu décides de te mettre en accord avec Dieu. Dieu dit, je m'occupe du surnaturel. Toi, tu t'occupes du naturel. D'accord? Jésus a dit, semez des graines dans le ciel, là où la teigne et les mites ne peuvent ronger. D'accord? Tu sèmes et moi, je me charge d'activer ce surnaturel dans ta vie. Tu poses des actions ordinaires. Dieu s'occupe de produire l'extraordinaire. Tu poses des actions qui sont humainement possibles. Dieu s'occupe de l'impossible. C'est pour cela que Jésus-Christ dit, c'est impossible aux hommes, mais c'est possible à Dieu. Trois petits points, tout est possible à celui qui croit. Bien-aimé, j'ai pris la décision de marcher dans le surnaturel divin. J'ai dit, Seigneur, si cette vie est possible dans le Gabon là, je veux vivre ça. Si on doit identifier Pasteur Luc Ondias, il faut qu'on l'identifie dans cette nation comme le pasteur qui marche dans le surnaturel divin. C'est mon engagement personnel avec le Seigneur. Le Seigneur m'a dit, si tu veux ça, il va falloir que tu comprennes les principes, d'accord, et que tu les mettes en pratique. Il y en a parmi vous, vous aurez tellement peur ou bien vous serez tellement incrédule que vous ne ferez rien. Je sais, il y en a parmi vous qui ne feront rien. Parce que depuis la nuit des temps, même au temps de Jésus, il y en avait qui refusaient de faire quoi que ce soit. Il y en avait qui disaient, ça là, je n'y crois pas. J'attends juste le 31 décembre pour venir manger et puis crier bonne année, c'est tout. Pour moi, c'est possible. Si veut le surnaturel, c'est possible. Déclencher le miraculeux, c'est possible. Pourquoi ? Parce que le naturel dans lequel nous vivons tous les jours est un monde qui est gouverné par des lois surnaturelles. Un enfant de Dieu est celui qui comprend les lois spirituelles. Il cherche toujours à percer les lois spirituelles. Il ne marche pas dans le naturel. Quand il voit les choses arriver dans sa vie, il doit tout de suite sentir que là, il y a spirituellement, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui... Il y a un problème quelque part. Parce que mon monde est gouverné par le surnaturel, par le spirituel. Alléluia. Le naturel est gouverné par des faits. Le surnaturel est gouverné par la foi. Le juste vivra par la foi. Marche par la foi. Travaille par la foi. Plante tes semences par la foi. C'est la connaissance des lois spirituelles du royaume qui nous permettent d'affronter les défis de la vie par la foi et non par les faits. Notre problème, c'est qu'on se fie plus aux faits. On se fie plus à ce que nous voyons de nos yeux. Je suis chrétien, je prie à la maison du bâtisseur, j'ai embrassé cette vision et je vois Dieu travailler dans cette vision et le Seigneur inspire saison de moisson, de signes et de miracles. Alors tu dis, ça c'est pour moi. Je reçois ça et je le prends. Tu te lèves, tu sors et tu poses des actes en t'attendant à ce que le miraculeux se produise dans ta vie. Tu ne restes pas sans rien faire. Tu dis, c'est pour moi. Si je suis un entrepreneur, alors si cette saison a été décrétée saison de miracles et de signes, alors je vais tout faire pour provoquer ces signes-là. J'ai pas peur, j'y vais. Alléluia. Pierre dit, Seigneur, est-ce que c'est toi? Si c'est toi, ordonne que je viens. Et le Seigneur dit, viens. Sur ta parole, je sors de la barque et je commence à marcher sur l'eau. Sur ta parole. Cette saison, voici la parole. Vas-tu être comme les autres disciples qui ont décidé de rester dans la barque, à se poser des questions et à raisonner? Ou vas-tu être ce Pierre-là qui a décidé de sortir de la barque et de marcher sur l'eau? Alléluia. Amen. Si tu es avec moi, fais comme ça. Déclencher le miraculeux, c'est possible. Et comment est-ce qu'on déclenche le miraculeux? Je l'ai introduit le 31. Eh bien, il y a une loi au-dessus de toutes les lois que la Bible appelle la loi des semailles et de la moisson. Dites-moi la loi des semailles et de la moisson. Pourquoi? Parce que dans Genèse chapitre 8 au verset 22, la Bible dit, tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit, ne cesseront point. Qu'est-ce que Dieu est en train de nous dire ici? Dieu est en train de nous dire que même que la nuit et le jour sont importants, l'été et l'hiver sont importants, le froid et le chaud, il y a une loi. Je m'attendais à ce qu'il parle ici de la loi de l'amour. Je m'attendais à ce qu'il parle de la loi de... Je sais pas. Non, Dieu dit, il y a une loi qui résume toutes les lois. Parce qu'on a tendance à dire que la loi suprême dans le royaume, c'est la loi de l'amour. Oui, c'est vrai, parce que Jésus-Christ est venu dire qu'il n'y a pas de, il n'y a pas plus important que d'aimer son prochain comme soi-même. Ok? Mais cette loi résume la loi de l'amour. Parce que si tu veux de l'amour, il faut donner. Si tu veux de l'amour, il faut semer. Donc pour moi, la loi qui résume le royaume, c'est celle-là. Semer et récolter. La loi de l'amour, Jacques l'identifie comme la loi royale. D'accord? En disant qu'elle est importante. En d'autres mots, les deux lois là se valent. Dieu dit que cette loi est trop importante. Tu veux prospérer dans le royaume de Dieu. Tu veux prospérer dans la vie. Sème et moissonne. Sème et moissonne. Si tu vois que tu n'as rien, c'est parce que tu ne sèmes pas suffisamment. Tu ne sèmes pas suffisamment. Paul dit dans le livre de Galates, celui qui sème peu récoltera peu. Celui qui sème beaucoup récoltera beaucoup. On te mesurera à la mesure avec laquelle tu te seras servi. C'est tout. Salomon rajoute encore dans le livre de Ecclésiaste, Dieu est simple. Ce sont les hommes qui compliquent tout. C'est ce que Salomon dit dans Ecclésiaste. Dieu est simple. Notre problème, c'est en général, c'est qu'on raisonne trop. Mon micro là, il fonctionne ou pas? J'ai l'impression qu'il ne fonctionne pas. Il fonctionne? Je ne m'entends plus. Amen? Ok. C'est bon. Gloire à Dieu. Ah, la technique. Avec moi, la loi des semailles et de la moisson. Le principe de la semence est extrêmement important. Amen. C'est le premier pilier compartiment de l'investissement. Toute personne qui veut récolter de l'argent doit apprendre à semer de l'argent. On ne peut pas récolter de l'argent si on ne sème pas. Pourquoi? Parce que Dieu agit avec des principes. Cela exige qu'on joue notre part dans la partition. Si on veut voir la manifestation de ce qu'on veut, c'est en plantant des semences prophétiques qu'on produit des moissons miraculeuses. Qu'est-ce que j'entends par semences prophétiques? Il y a semences et semences prophétiques. Une semence est une graine que l'on a plantée sans attendre quoi que ce soit en retour. Une semence prophétique, c'est une semence qu'on a plantée avec foi, en s'attendant avec un retour sur investissement. C'est pour ça qu'on dit prophétique, parce qu'on annonce quelque chose à l'avance. Je sème quelque chose en disant, ok Seigneur, je sème ça et je m'attends à ce que tu me rendes en retour bien plus. Viens avec moi, semence prophétique. Donc il faut semer de manière prophétique cette année, si on veut marcher dans le miraculeux. Tu veux de l'argent? Sème. Tu veux de l'amour? Sème. Tu veux quoi d'autre? Identifie ce que tu veux. Trouve un moyen de semer quelque chose. Et tu vas te rendre compte que dans notre vie aujourd'hui, c'est plus simple de semer de l'argent. Ça nous permet, ça nous soulage de beaucoup de choses. Si toi tu dis, moi j'ai pas d'argent, je préfère semer un pied de banane. Rassure-toi, j'aime beaucoup les beignets. Viens semer les bananes. Et sème quelque chose. La moisson miraculeuse dans le royaume est déclenchée par la qualité de nos semences. Ce n'est pas la quantité qui compte, c'est la qualité. Dites-moi la qualité. Parce que beaucoup de chrétiens font l'erreur de croire que c'est parce qu'on sème beaucoup d'argent que l'on va récolter beaucoup. Dieu dit non. Et je vais t'expliquer ça tout à l'heure. Ce n'est pas la quantité, c'est la qualité de ta semence. C'est la manière avec laquelle tu viens déposer ça sur l'autel. Ce n'est pas parce que tu emmènes beaucoup à l'autel que Dieu va t'exaucer. Dieu ne regarde pas à ce qui est visible, Dieu regarde au cœur. Dieu regarde la disposition de cœur avec laquelle tu amènes ça. Toi, tu peux emmener 100 avec un gros sourire en disant Dieu va m'exaucer, mais l'autre peut amener juste 1, mais avec larmes et avec un cœur brisant en disant Seigneur, c'est tout ce que je te donne. Et Dieu dit, c'est lui que j'exauce. Avec ma semence prophétique. Donc ce n'est pas la quantité qui compte, c'est la qualité. Alléluia. Et pour ça, si tu veux récolter, il faut que tu apprennes à semer, à investir dans le royaume. Alléluia. Aujourd'hui, je vais juste introduire l'investissement parce qu'on va rentrer vraiment en profondeur dans l'investissement. Ça va être technique dimanche prochain, je vous le dis déjà. Ça va être un peu technique. Il va dire, hey, là, on est en cours de finance, là, ça va être fort.
On va dire, mais l'église là, ils veulent aller où comme ça là? Ça, c'est quelle manière d'enseigner la parole de Dieu? On rentre dans les choses. C'est pas mondain ça. Non, c'est pas mondain. C'est toi qui es mondain en pensant comme ça. Le plus grand investisseur du roi, dans le, de tous les temps, c'est Dieu lui-même. Dieu nous voit de loin dans l'esprit. Il dit, je veux récolter des milliards et des milliards et des milliards d'enfants. Il nous voit. Et quand il tend la main, il ne peut pas nous atteindre. Là, le fils le regarde et le fils lui dit, sème-moi. Et Dieu a tant aimé le monde qu'il a semé son fils. Afin que tout quiconque croise en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et quand Jésus-Christ est mort, Dieu nous a récoltés. Dieu était tellement content. Il est sorti de sa chambre en caleçon quand le voile du Saint des Saints s'est déchiré. Tellement content. Oh! J'ai récolté. Bon, je ne sais pas s'il était en caleçon. Non, je... Et il nous a récoltés. Donc celui qui veut récolter doit apprendre à investir. Donc pour revenir à l'argent, si tu veux de l'argent dans la vie, si tu en veux beaucoup, il n'y a aucun problème si tu es chrétien. Tu en veux beaucoup, qui veut beaucoup d'argent? Voilà. Si vous voulez beaucoup d'argent, semez. Trouvez les stratégies semences, c'est-à-dire d'investissement et semer. Et vous allez récolter beaucoup. Devenez sage dans l'investissement. Les gens qui sont immensément riches dans le monde sont des gens qui ont acquis une sagesse dans l'investissement. Investissement dans la terre, investissement dans l'agriculture, investissement dans l'immobilier, investissement dans les placements en bourse, investissement dans toutes sortes de choses. Ils ont appris l'investissement. Genre de bouquin que tu n'as jamais lu. À part aller lire les bouquins La puissance du pardon. Arrête de lire ça. Va un peu lire les. On n'a pas besoin de lire tout un bouquin pour savoir que c'est bon de pardonner. La puissance du pardon. Quand on pardonne, ça fait ceci, ça fait cela. Notre cœur est comme. C'est bon. Oh! Jésus nous a déjà enseigné tout ça dans la Bible. C'est bon. Ce n'est pas des sujets intéressants, ça. Les pasteurs nous prêchent sur ça aussi dans les églises. Moi, je veux prospérer. Je veux réussir dans la vie. Je veux briller. Je veux aller de l'avant. Donc, je pardonne et je me décharge de ce fardeau-là. Mais comme tu es tellement orgueilleux et que tu ne veux pas pardonner ta belle-mère, tu es obligé d'aller acheter un livre pour apprendre c'est quoi la puissance du pardon. Non. C'est bon. Pardonne et puis tu avances. Il y a des sujets plus importants que ça. Donc, il y a des chrétiens. Oh, le pasteur, il prêche sur la prospérité. Prospérité. Bon, qu'est-ce qu'on doit prêcher alors? Il faut prêcher l'amour de Dieu. Il faut prêcher. Oh, mais c'est bon. Jésus est mort pour nous. Il nous a prouvé l'amour. Il nous a même démontré par sa crucifixion. C'est bon. Il n'y a pas meilleur enseignement que la croix de Jésus pour comprendre ce que c'est que l'amour. Pourquoi tu veux que j'aille encore combien me prêcher sur l'amour tous les jours? Le pasteur, le dimanche matin, il prêche sur l'amour. Il prêche sur l'amour et puis il voit que les trois quarts de l'église sont en train de pleurer. Il se rend compte que là, j'ai une église de gens qui étaient rancuniers, mauvais, envers les gens. Ah! C'est vrai? Le pasteur qui prêche sur l'amour, il y a 100 personnes dans la salle et 99 sont en train de pleurer. Oh, je veux pardonner. Mais tu pleures comme ça parce que tu en voulais. Ouais. Donc on a des gens qui sont dans l'église et qui en veulent, qui sont rancuniers parce qu'on leur a fait du mal. Ils sont là et ils gardent ça dans le cœur. Ils viennent louer le Seigneur. Mais quand Dieu scanne comme ça, il voit des gens qui sont rancuniers, qui en veulent. C'est pour ça qu'ils ne progressent pas. Et le jour où le message de l'amour arrive, Dieu révèle leur cœur et puis tout le monde pleure. Tu dis, mais c'est dommage, au lieu de parler des sujets intéressants, on est obligé de revenir sur les fondamentaux de l'amour et du pardon, etc. Non. Mais je dis ça parce que je sais qu'il y a des gens qui m'écoutent sur Facebook et qui aiment bien m'envoyer des messages. Non, moi je suis une cible, on m'envoie des messages toujours bizarres. Il y a une fille cette semaine-là, elle a envoyé deux longs messages. J'ai dit, ah Seigneur Jésus, je t'ai fait quoi? Puis elle commence à parler de la crucifixion de Jésus, tout ça. Voilà, les pasteurs des derniers temps, Timothée, genre je connais pas la Bible, tu vois. Non, mais il y a des gens, ils n'ont pas peur. Hein. Tu vois que la personne là, c'est un pasteur, il a une église, il enseigne la parole et tout. Mais toi, tu viens sur Facebook. Facebook a donné trop de pouvoir aux gens, franchement. Et puis, il commence à te sortir les versets bibliques. Comme l'autre là qui m'avait dit, pasteur, je vous donne rendez-vous sur Skype, bib à la main, et puis on va parler. J'ai dit, mais n'importe quoi, je t'ai juste fait bannir, supprimer de ma page. Donc écoutez bien, vous qui écoutez sur Facebook, je vais vous bannir, vous supprimer de ma page. Alléluia. Avec moi, investissement. Ah, sujet intéressant. Donc j'espère que vous n'êtes pas rancunier envers quelqu'un. Hein? Si vous en voulez à quelqu'un, pardonnez.
Ah oui, bon, on aura un sujet sur l'amour, mais bon, en ce moment, je ne suis pas trop inspiré sur l'amour. Je suis plus inspiré dans ces choses-là. Mais on ne voulait pas trop, hein? Voilà, dis avec moi, avance, pasteur. Voilà, alléluia. Donc, la loi de l'investissement, elle est hyper importante. Parce que Jésus-Christ nous dit, qu'on veille ou qu'on dorme, ça porte du fruit. Pourquoi? Eh bien, parce que l'investissement obéit à la loi de la semence. Amen. L'offrande que l'on apporte tous les jours à l'église ou qu'on fait ailleurs, l'offrande dominicale, c'est un don volontaire. Sans rien attendre en retour, on entre dans le prophétique quand notre offrande devient une semence. Alléluia. On commence à entrer dans la dimension prophétique quand ce qu'on donne là, ça commence à nous faire mal. Parce qu'un investissement, c'est jamais agréable. Investir consiste à planter une semence en s'attendant à ce qu'elle produise du fruit en retour d'elle-même. Investir, c'est que je dorme, que je veille, ma semence, elle travaille. Elle travaille. Mais une chose est sûre, c'est que ça m'a coûté quelque chose. L'offrande qu'on apporte à Dieu dans les paniers, on l'apporte avec joie. Ce n'est pas quelque chose qui nous coûte, c'est quelque chose qu'on offre à Dieu. Donc, on n'offre pas quelque chose en s'attendant à ce que ça me rapporte en retour. Parce qu'il y en a qui disent que parce qu'ils donnent beaucoup d'offrandes à Dieu, alors Dieu est censé leur les bénir en retour. Non, c'est une offrande. Donc Dieu n'accorde pas de retour sur des offrandes parce qu'une offrande, ce n'est pas un investissement. Je ne viens pas donner des offrandes à l'église chaque semaine et puis je dis, oh, je suis en train d'investir dans le royaume. Non, tu ne fais que aider à payer les charges de l'église pour l'œuvre de Dieu. Amen. Mais ton offrande devient prophétique quand tu entres dans la dimension de semence sacrificielle que tu déposes. Alléluia. Avec moi la loi de l'investissement. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Des offrandes ou des semences? Faire les deux. Pourquoi? Parce que l'offrande est un don joyeux. L'investissement est une semence sacrificielle. L'offrande se fait sans douleur et avec joie. L'investissement est douloureux et se fait avec larmes. C'est pour cela que David avait compris ce principe et dit dans les psaumes 110, verset 5, « Celui qui sème avec larmes la nuit récolte avec joie le matin. » On ne sème jamais avec joie. Celui qui sème avec joie, c'est celui qui a déjà récolté de ses semences précédentes. Donc, il a atteint la dimension où maintenant sont devenus. Oh non, je souhaite au nom de Jésus que tu arrives à la dimension où les semences deviennent joyeuses. Oh, une fois je regardais un témoignage du bishop David Oyedepo qui disait qu'un jour il a semé $1 million comme ça à l'église. Bah, il dit j'étais content de semer ça parce que j'étais tellement reconnaissant des bénédictions et des faveurs que Dieu m'avait fait toute ma vie. Je suis maintenant un homme très très riche, etc. Au point où maintenant j'arrive à venir donner $1 million. 655 millions de francs CFA. Je dépose ça comme ça, bam, pour l'église. Après je le regarde, je fais, ah, arrête, c'est ton église aussi. Hein. Donc, ma prière c'est que tu atteignes cette dimension-là au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Donc l'offrande est sans douleur. L'investissement est douloureux. L'offrande est agréable à Dieu. La semence sacrificielle provoque Dieu et déclenche le miraculeux. Le miraculeux se déclenche quand derrière il y a un prix qui a été payé. Pas quand c'est juste une offrande qui a été faite. Donc distingue bien l'offrande de la semence sacrificielle. Amen. Je vais t'expliquer c'est quoi la semence sacrificielle. J'ai compris que beaucoup d'entre nous, on n'expérimente pas des faveurs extraordinaires parce que tout simplement, on ne fait pas de sacrifice à Dieu. C'est quand la dernière fois que tu as fait un sacrifice à Dieu? C'est quand la dernière fois que tu as dit, Seigneur, je sème là parce que je t'aime tellement et je veux voir tellement ta main agir dans ma vie que voici ce que je sème. Moi, si je vous dis ce que ma femme et moi, on a semé, ah non. Je préfère ne rien dire pour des raisons de mes gars. Bon, faut pas être jaloux demain. Hein. Moi, je sème. Parce que je comprends la parole et je sais que Dieu récompense toujours. Parce que la Bible dit qu'il est le rémunérateur de notre foi. Alléluia. Avec moi, investissement. Et l'investissement répond à la semence sacrificielle. Si cette saison, tu veux opérer dans le miraculeux, entre dans la dimension de sacrifice. Fais un sacrifice. Prends le temps que tu veux pour réfléchir au sacrifice que tu vas faire. Fais un sacrifice. Que ce soit une semence financière, que ce soit une semence en nature, je ne sais pas ce que tu vas semer, mais quel que soit ce que tu veux, identifie un sacrifice et paye le prix. Paye le prix. Car ce sont les gens qui ont payé un prix lourd qui récoltent beaucoup. Celui qui est assis comme un paresseux qui ne fait rien ne récolte jamais rien. Il vit dans une illusion et finit pauvre. Alléluia. Je vais te parler, pour terminer, du secret de la semence sacrificielle. Parce que j'ai regardé ça dans la Bible et Dieu m'a montré des passages. Dieu m'a montré des gens qui ont semé des semences sacrificielles et qui ont récolté. Je peux t'assurer que cette dimension, ce n'est pas pour tout le monde. C'est pour ceux qui sont prêts à payer le prix. Moi, la semence sacrificielle. Le secret de la semence sacrificielle, c'est le sacrifice. Et il y a quelqu'un dans la Bible que j'ai identifié qui a fait un sacrifice. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de 1 roi, au chapitre 17. Vous allez vous rappeler de cette histoire. Chapitre 17, livre de 1 roi, il est écrit ceci. C'est une belle histoire. Il est écrit, « Lève-toi !» Dieu est en train de parler ici au prophète Élie. « Lève-toi, va à Sarepta qui appartient à Sidon et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. » Il se leva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, « Va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase afin que je boive. » Et elle alla chercher. Je m'arrête là. Nous sommes ici, vous vous situez dans le contexte, en temps de famine. D'accord? Il n'y a pas de nourriture dans le pays. Élie est en train de prier. Et bien entendu, au regard de ce qu'on lit, il est en train certainement de demander à Dieu dans sa prière, « Je fais quoi? Parce que la famine est grande. Je n'ai pas de quoi manger. » Tu es prêt à laisser ton prophète mourir? Fin. Et là, Dieu lui répond et Dieu lui dit, lève-toi. Ça veut dire que certainement, il devait être à genoux, je ne sais pas. Mais Dieu lui dit, lève-toi et va s'arrêter là-bas. J'ai ordonné à une veuve de te nourrir. Alors, il arrive chez une veuve. C'est une femme déjà qui a vécu, qui sort d'un moment très douloureux. Elle a perdu son mari. D'accord? Il arrive chez cette femme qui, quand elle voit arriver le prophète, certainement, elle a été très joyeuse de voir arriver le prophète en ce temps de crise économique. C'était un beau présage de voir arriver l'homme de Dieu dans sa maison. Et elle avait juste un peu de nourriture qui lui restait à manger pour son enfant. Et tout étonnée, elle entend le prophète qui lui dit, « Va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase. » Déjà, j'en ai pas beaucoup. C'est plutôt toi que j'attends de voir venir avec des packs d'eau Hansa, tout ça. Non, toi, tu me dis, « Va prendre l'eau qui me reste. » pour te donner à boire. Apporte-moi, je te prie. Ensuite, il a dit qu'il l'appela de nouveau et dit, ah, donc du genre, va me chercher de l'eau à boire, d'accord? Et pendant qu'elle est à la cuisine en train d'aller chercher l'eau, il dit encore de loin, s'il te plaît, veuve de Sarepta, apporte-moi aussi, je te prie, un morceau de pain dans ta main quand tu viens. Et là, regarde ce qu'elle répondit. Elle dit, attends, va la terre. Il dit, écoute-moi bien. Regarde par quoi elle commence sa phrase. Elle dit, l'Éternel ton Dieu est vivant. Hein? Non? Toi, tu penses que c'est des bénédictions qu'elle vient de lui lancer. Ce n'est pas des bénédictions. Elle dit, écoute, tu es vivant, non? C'est quoi cette histoire que tu veux manger ma nourriture? On est en crise économique. Donc, si je précise que Dieu est vivant, si je meurs là, c'est toi qui es responsable. D'accord? L'Éternel ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit. Ah, mais je n'ai qu'une. Alors, vous pouvez dire, ah, là, ça devient intéressant. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse deux morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et mon fils. Nous mangerons. Après quoi? Nous mourrons. Donc là, c'est rempli de désespoir qu'elle dit ça. Elle précise juste avant, l'Éternel est ton Dieu et vivant. Donc si on meurt là, c'est à cause de toi. Élie, le prophète. Donc elle disait ça avec le mauvais cœur. Tu vois, non? Élie lui dit, ne crains pas. Donc il commence par ne crains pas. Pourquoi? Parce qu'il est en train de lui dire que, écoute, je t'ai demandé de semer quelque chose. Pourquoi tu as peur? Parce que l'enseignement que je suis en train de vous donner là, la première chose qui va monter dans votre cœur, c'est la peur. La peur va vous empêcher d'avancer. Beaucoup, vous allez avoir peur. La peur va vous amener à raisonner, à remettre en doute ce que vous avez entendu. Pourtant, Dieu vous a parlé. Et comme il dit, je dis, crains pas, sème. Ne crains pas, sème. Rentre et regarde comme si le couteau n'était pas déjà suffisamment enfoncé. C'est là où tu comprends parfois que Dieu, il a une mentalité vraiment bizarre. Il dit, ne crains pas. Donc, un peu du baume au cœur. Et après, il rajoute, rentre, fais comme tu as dit. Seulement, dis avec moi seulement. Prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau. De l'eau, du pain, et même un petit peu du gâteau. Élie, et tu me l'apporteras et tu en feras ensuite pour toi et ton fils. Donc, moi, tu m'assures d'abord que je vive. Si tu crèves, c'est de la responsabilité de Dieu. Une chose est sûre, c'est que Dieu m'a dit une seule chose quand je me suis levé de ma prière auprès du torrent où Dieu m'avait déjà nourri, c'est qu'il ne veut pas que je meure. Donc, il m'a dit, il y a une veuve là-bas qui va me nourrir. Il ne m'a pas dit que moi, je venais pour te nourrir. Donc, si tu meurs, c'est la volonté de Dieu. Mais une chose est sûre, je connais la volonté me concernant, il ne veut pas que son prophète meure. Donc, prépare-moi d'abord à manger et ensuite, avec le reste, j'essaie de te gérer. D'accord? Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Assure-toi, je suis encore un prophète. Attends. La farine, là, Dieu ne lui avait pas parlé. Hein. C'est le prophète, il a le don de prophétie. Il est le don. D'accord? Donc, il n'a pas besoin d'entendre le Saint-Esprit, boum, prophétise. Non. Lui, tout ce qui sort de sa bouche, c'est prophétie. Donc, il dit, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Elle alla et elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point et l'huile qui était dans la cruche selon la parole que l'Éternel avait prononcée à Élie. Est-ce que vous voyez ce que je viens de vous montrer là? Cette femme, le prophète lui dit, il faut que tu sèmes. Si tu ne sèmes pas, tu vas mourir. Mais si tu sèmes, non seulement moi, le prophète de Dieu, je vivrai, mais tu vivras aussi. Elle l'a fait avec beaucoup de douleur. D'accord? Et ce que je vais te montrer maintenant, c'est que ce qu'on ne voit pas dans ce texte, c'est que cette femme-là a semé. Elle avait gardé de la rancune et de l'incrédulité vis-à-vis de ce prophète. Malgré le fait que Dieu avait produit la récolte et qu'elle avait réussi à trouver encore à manger et à vivre avec son fils, elle n'avait toujours pas compris dans l'esprit pourquoi Dieu lui avait demandé de faire ça. C'est plus tard qu'elle va rendre grâce à Dieu. Alléluia. Pourquoi? Parce que cette femme-là, ce que le prophète avait fait était en apparence méchant. Donc ça lui avait fait très mal. Parce qu'elle avait payé un prix lourd. Elle avait frôlé la mort. Il fallait vraiment avoir beaucoup de foi, surtout en leur temps, prendre ce qui me reste et donner ça à un prophète que j'ai jamais vu de ma vie. Et c'est plus tard, dis-moi plus tard, c'est plus tard qu'elle va récolter les fruits de sa semence. Parce que là, elle va comprendre pourquoi Dieu voulait que son prophète reste en vie. Et c'est le texte qui suit. Dis-moi, la moisson est là. Plus loin, il est écrit au verset 17. Après ces événements, dis-moi, après ces événements, après ces événements, le fils de cette maîtresse de maison tomba malade. Sa maladie fut si violente qu'il cessa de respirer. La femme dit alors à Élie, « Que me veux-tu encore, homme de Dieu? Es-tu venu chez moi pour rappeler le souvenir de ma faute et pour faire mourir mon fils? Hein? » Il lui répondit, « Donne-moi ton fils. » Et il le prit dans les bras de la femme, le monta dans la chambre à l'étage où il logeait et le coucha sur son lit. Puis il fit appel à l'Éternel et dit, « Éternel, mon Dieu, est-ce que que tu vas faire du mal au point de faire mourir son fils, même à cette veuve qui m'a accueilli chez elle? Puis il s'étendit trois fois sur l'enfant, fit appel à l'Éternel et dit, Éternel mon Dieu, je t'en prie, que l'âme de cet enfant revienne en lui. L'Éternel écouta Élie, l'âme de l'enfant revint en lui et il retrouva la vie. Élie prit l'enfant, le descendit de la chambre jusque dans la maison et le donna à sa mère en lui disant, vois, ton fils est vivant. La femme dit alors à Élie, regarde bien ce qui est écrit. Je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vraie. Je reconnais maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Cette femme ne croyait pas en cet homme. Et elle comprend aujourd'hui pourquoi Dieu voulait que son prophète vive. Car si elle avait refusé de nourrir ce prophète, elle aurait survécu, mais son enfant serait mort aujourd'hui. Dites-moi, semence sacrificielle. Elle avait payé un prix. Elle avait fait un sacrifice. Et plus tard, elle a récolté la résurrection de son fils au travers de son prophète. Voilà la moisson qu'elle a récoltée, cette femme-là. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ, cette saison, semence sacrificielle que tu feras va te récolter une grande moisson au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, tu vois le sacrifice et il est douloureux. Mais visualise la récolte. Regarde ce que tu vas récolter demain. Et ça va te donner suffisamment de force pour payer le prix aujourd'hui. C'est parce que j'ai un grand rêve que je sème avec douleur. Je sème avec douleur et je ne regarde pas le sacrifice. Je sème avec douleur en regardant le rêve. Amen. Martin Luther King se tenait à l'autel et prononce le discours « I have a dream ». Quand il prononce ce discours, il sait qu'il est mort. Mais lui, il voit la récolte. Il visualise un jour qu'un homme noir dirigera le pays. Il visualise, comme il dit dans son discours, qu'un jour les blancs et les noirs s'associeront. Les enfants blancs et noirs joueront ensemble. C'est ce qu'il voit dans l'esprit. Il ne regarde pas au prix qu'il est en train de payer. Amen. Regarde au sacrifice. Donc cette femme avait semé un prix lourd. Et c'est bien plus tard qu'elle a compris le prix qu'elle avait payé. Pourquoi elle avait payé ce prix? Alléluia. Dites-moi, semence sacrificielle. Donc, quel est le principe ici? Le principe, c'est la valeur de ta semence ne dépend pas de ce que tu as donné, mais de ce que tu as gardé pour toi après avoir donné. Et cette femme-là avait tout donné par la foi. Tu sais, même si après, elle a été incrédule envers le prophète, Dieu s'est contenté de la foi qu'elle avait donnée. Parfois, on pose des actes de foi. Dieu voit qu'après, on doute encore. Mais Dieu dit, c'est pas grave, même si tu doutes. Je vois que tu as déjà semé. D'accord? Tu as le droit de douter, de te plaindre, même d'insulter Dieu après que tu aies fait la semence. Tu as le droit. Parce que tu lui as déjà donné. C'est avant que Dieu ne veut pas que tu doutes. Dieu veut que tu doutes après. Parce que après, il peut se saisir de la semence pour te sauver. Ah, dites-moi la semence sacrificielle. Je vais te donner encore l'exemple d'une autre personne qui a fait un sacrifice. Et là, je reviens à notre ami Jésus. Il est écrit dans le livre de Marc. Prends ta Bible avec moi dans le livre de Marc, chapitre 12, au verset 41. Regarde cette histoire, elle est intéressante. Il est écrit, Jésus était assis vis-à-vis du trône. Dis avec moi, il était assis. Et regardez comment la foule y mettait de l'argent. De nombreux riches mettaient beaucoup. Une pauvre veuve vint aussi, certainement une descendante de la veuve de Sarepta. Elle y mit deux petites pièces, une toute petite somme. Alors Jésus appela ses disciples et leur dit, je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus que tous ceux qui ont mis dans le tronc, car tous ont pris de leur superflu pour mettre dans le tronc, tandis qu'elle, elle a mis de son nécessaire tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Alléluia. Dans la version parole vivante, c'est intéressant. Il dit, beaucoup de riches y avaient déjà déposé de fortes sommes d'argent. Quand arriva une pauvre veuve, elle y mit deux pièces de cuivre valant quelques centimes. Alors Jésus appela ses disciples et leur dit, vraiment je vous l'assure, de tous ceux qui ont mis de l'argent dans le tronc, c'est cette pauvre veuve qui a donné le plus. Car tous les autres ont donné de leur superflu. Mais elle, dans sa pauvreté, elle a sacrifié de son nécessaire. Elle a donné tout ce qu'elle possédait pour vivre. Oui, en quelque sorte, c'est sa vie elle-même qu'elle a déposée dans le tronc. Il y a comme un sacrifice. Donc, on a ici Jésus, notre Seigneur, qui vient s'asseoir là où les gens mettent l'argent. Bon, juste en parenthèse, identifie un peu la scène. Les gens se lèvent à la synagogue pour aller faire l'offrande. Voilà ce beau monsieur qui a l'habitude de donner des sermons. Il y en a qui sont ses disciples et d'autres ne le sont pas. Il y a les riches qui sont aussi venus à leur culte. Donc, c'est le temps de l'offrande et les riches vont aussi donner l'argent. Et puis, on voit Jésus, il sort du peuple, le voilà qui vient. Et puis, il s'assoit à côté du panier. Juste pour regarder ce que les gens mettent. Parfois, vous lisez la Bible, vous n'identifiez pas les choses. Pour rentrer dans le contexte, ce gars vient s'asseoir. C'est comme si vous, au moment de l'offrande, Mallory est là en train de chanter, Luc est au piano, et puis le pasteur se lève et puis il vient comme ça ici. Commence à regarder. Tu mets combien? Il voit que tu mets 500. Quand tu mets 500, il fait... Il voit d'autres qui mettent des fortes chambres et puis regarde. Il regardait. Donc les gens n'osaient pas parler parce que c'était quand même Jésus. C'est quand même le bishop, quoi. Mais le bishop, aujourd'hui, il a un comportement vraiment bizarre. Il regarde ce qu'on met dans le panier, quoi. Il est là, il regarde. Et puis là, il voit que les gens mettent de fortes sommes d'argent. Il les regarde passer. Ok. Genre, c'est lui le patron, quoi. Il avait un comportement. Jésus, il était trop extraordinaire, ce gars. Et puis, Adam met une petite pièce. Il fait, ah, oh, c'est l'argent. Et puis, il voit, elle met la petite pièce. Et puis, elle lui tape en 5. Et puis, elle s'en va. Et là, il dit, ok, cette femme-là a mis de sa vie dans... Et elle a donné beaucoup plus que les autres. Amen. Donc, ce n'est pas la quantité qui compte. C'est la qualité du sacrifice qui compte. Et la disposition de cœur avec laquelle tu amènes ça. Comme cette pauvre veuve. Donc, ce que tu as gardé pour toi, c'est ça qui va déterminer la valeur du sacrifice. La valeur de ta semence est déterminée par la qualité de ton sacrifice. Et la qualité du sacrifice va déterminer l'exaucement. Plus le sacrifice est grand, plus l'exaucement est puissant. Est-ce que vous avez entendu après ce passage que la veuve est morte? Non, elle n'est pas morte. Elle a survécu par la grâce de Dieu. Amen. Donc, c'est là maintenant la puissance de l'offrande. C'est là la puissance de la semence. C'est que beaucoup d'entre nous, quand on dit semons, vous pensez qu'il faut absolument amener beaucoup. Dieu dit non. Amène ce qui te coûte. Il y en a, c'est 1 million qui va leur coûter. Il y en a d'autres, c'est 10 000. Celui qui n'a pas de boulot depuis des mois, qui a du mal à trouver 1 000 francs, et puis ce dimanche-là, il a vraiment prié Dieu qu'il voulait aller au culte. Et comme par hasard, il rencontre quelqu'un qui lui donne 10 000. Et les 10 000 francs, c'est un véritable rafraîchissement de son âme. Il avait son petit 500 avec quoi il prend le taxi. Et là, c'est 10 000 dans la poche. Et le pasteur, lui, qui est en train de prêcher. Et là, il entend la voix du Saint-Esprit qui dit, sème les 10 000. Il dit, Dieu, tu vas dire 10 000 francs, c'est rien. Lui, c'est beaucoup, papa. Lui, il galère. Moi, j'ai galéré. Je sais c'est quoi 10 000. Hein? Oh, qui sait c'est quoi 10 000 ici? Quand tu es sous le soleil et que tu n'as pas d'argent pour prendre le taxi, tu habites à Ongou. Tu es en Gondje, tu habites à Ongou et tu n'as pas l'argent du taxi. Tu vois les frères de l'église sont partis, tout le monde est parti. Tu es là maintenant, tu marches sur le sol caillouteux, soleil, frappe. Quand tu fais comme ça l'autostop, pour ça les gens disent, ah, quitte là, on ne te prend pas. Tu sais que tu dois marcher jusqu'à Ongou. Le jour où quelqu'un te donne 10 000, tu es content. Tu es content. Et là, ce jour-là, Dieu dit, sème ça. Il dit, Dieu, non, je ne peux pas. Sème. Dis avec moi, sème. Parce que la qualité du sacrifice va déterminer l'exaucement. Dieu, il aime ce qui coûte. C'est pour cela que quand tu lis le livre de 2 Samuel, chapitre 24, au verset 24, David voit la plaie qui a frappé le peuple. Et David comprend dans l'esprit qu'il faut qu'il fasse une offrande pour que Dieu arrête la plaie. Et David arrive à l'aire d'Ornan. Et là, le propriétaire de l'aire d'Ornan le voit arriver et dit, « Oh, c'est le roi! Le roi, viens chez moi !» Elle lui a dit, je suis venu acheter ta terre. Il dit, mais le roi veut ma terre. Seigneur, je te la donne gratuitement, ma terre. C'est quand même le roi David, quoi. C'est un privilège pour moi de te donner ma terre. Et David dit, je n'offrirai rien à l'Éternel qui ne me coûte. Ça me coûte. Parce que Dieu aime le sacrifice. Alors le Dieu que nous prions, c'est un Dieu de sacrifice. Ouais, c'est un Dieu de sacrifice. Si ça ne t'a pas coûté, il va dire, ah. Oh. Mais quand il voit que ça t'a coûté, alléluia. Amen. C'est la qualité du sacrifice. Et la sagesse, elle est dans le sacrifice. Celui qui comprend la portée du sacrifice va apprendre à utiliser ça. Et Dieu va l'exaucer. En attendant maintenant Je suis en train de clôturer. En attendant maintenant, ça rapporte, ça, que la moisson arrive. Qu'est-ce que tu fais? Tu restes sans rien faire? Qu'est-ce que tu fais? Tu as planté les graines. 2017 est arrivé. La moisson est là. Tu as planté les graines. Qu'est-ce que l'on fait lorsqu'on a planté les graines? Qu'est-ce que l'agriculteur fait quand il a planté les graines? Mais il entretient son champ. Il entretient son champ. C'est pour ça que j'ai pris cette belle image de ce gars qui travaille comme un malade. Hein? Ecclésiaste chapitre 11 au verset 4. Qu'est-ce qu'il nous dit, Salomon? Salomon a tiré une leçon de ce que je suis en train de dire ici. Et il en a fait un résumé pour sa vie. Salomon nous dit, Ecclésiaste chapitre 11 verset 4. Celui qui observe le vent ne sèmera point. Et celui qui regarde les nuages ne moissonnera point. Point. Celui qui observe le vent, qu'est-ce que c'est que le vent ici? Le vent, c'est tout ce qui nous entoure. Celui qui observe la crise économique au Gabon. Celui qui observe la crise politique au Gabon. Celui qui regarde au peu qu'il a. Celui qui regarde au travail, au salaire qu'il gagne. Il ne sèmera jamais. Celui qui regarde aux nuages qui passent, celui qui regarde à sa situation, ne moissonnera jamais. Et il dit, comme tu ne sais pas quel est le chemin du vent, car tu ne sais pas où ira cette crise que le pays traverse, hein? Ni comment se forment les eaux dans le ventre de la femme enceinte, tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. Dès le matin, dis-moi dès le matin, sème ta semence. Et le soir, ne laisse pas reposer ta main. En d'autres mots, travaille. Continue de travailler, car tu ne sais pas ce qui réussira, ceci ou cela, ou si l'un et l'autre sont également bons. Tu sèmes et tu travailles. Qu'est-ce que le pasteur Luc est en train de faire? Le pasteur Luc a une vision dans son esprit. Il veut voir des entrepreneurs prospères se lever dans l'église. Il veut voir des familles qui opèrent dans la faveur. Il veut voir des choses commencer à être débloquées dans l'église. Qu'est-ce qu'il fait? Il se prépare, il arrive et il sème. Je sème dans mon jardin. Je sème. Je continue d'envoyer la parole. Je continue d'envoyer la parole. J'envoie la parole jusqu'à ce que je commence à voir les fruits commencer à sortir. Un jour, vous allez voir quelqu'un qui va dire, pasteur, pasteur, aujourd'hui, je ne te demande pas la permission. Il faut que je vienne témoigner ici devant le peuple de Dieu. Pasteur, oh, bien-aimé, ce que le pasteur a dit, c'est vrai. Oh, j'ai semé, ça m'a coûté. Aujourd'hui, j'ai récolté 1 milliard qui me louait le Seigneur avec moi. Et là, quand tu vas entendre le témoignage, tu vas dire, oh, moi aussi, oh non, là, j'y vais. Et le rêve du pasteur, c'est ça. C'est pour cela que tu vois, quand tu regardes le culte d'Oyedepo ou bien d'autres grandes églises, leur culte, c'est en général 5h, 6h. Et quand tu regardes ces cultes-là, les gens restent du début à la fin. Vous, 1h30, vous voulez déjà rentrer chez vous. Chez eux, ils restent 6h au culte. Pourquoi? Parce que quand tu regardes leur culte, et j'ai déjà fait ça, je regarde par exemple le culte d'Oyedepo, 5h. 5h là, c'est au moins 2h que les témoignages, les gens viennent se succéder les uns après les autres. Le Seigneur m'a guéri, le Seigneur m'a fait ceci, le Seigneur m'a fait. Les gens sont là. Oh, alléluia. Que des témoignages. Et lui, il vient seulement prêcher à la fin. Parce que les gens expérimentent l'extraordinaire divin. Et il faut qu'ils témoignent. Moi, mon rêve, c'est qu'il y ait de plus en plus de témoignages qui naissent dans l'église. Et cette saison est la saison des signes, des miracles et de la moisson. Alléluia! Donc, tu ne sais pas. Tu ne sais pas ce qui va se passer. Sème et ne laisse pas reposer ta main. Continue à travailler. Parce que quand tu travailles, et tu vas te rendre compte dans la Bible que aucun homme de Dieu n'a reçu une révélation de Jésus-Christ alors qu'il n'était pas en train de travailler. Aucun. Tous étaient toujours en train de travailler. Quand Dieu se révèle à Moïse, il est en train de garder les troupeaux de Jéthro. Quand Dieu se révèle à Pierre, les fils de Zébédée avec son frère André, ils sont en train de pêcher. Quand Dieu se révèle à Lévi, il est au péage en train de prendre l'argent des gens. Quand Dieu se révèle à Paul, il est sur son cheval en train d'aller à Damas. Dans le mauvais sens, mais il était en train de bosser quand même. Parce qu'il allait tuer les chrétiens. Tous étaient en train de travailler. Quand le prophète Élie trouve le prophète Élisée, le jeune Élisée, Élisée était en train de travailler. Ils étaient toujours en train de travailler. Jamais Dieu s'est révélé à quelqu'un qui était en train de dormir. Toujours en train de travailler. Et c'est dans le travail que Dieu va t'exaucer. Tu vas voir une porte qui va s'ouvrir. Tu vas dire, oh merci Seigneur. tu vois, les gens vont dire, oh, c'est parce que tu as beaucoup travaillé. Tu vas dire, non, mon ami, c'est la grâce de Dieu. Parce que j'ai travaillé. J'ai travaillé. Hier, j'étais en train de regarder un reportage d'une église au Zimbabwe. Et le pasteur, c'est un blanc. Et ce pasteur-là, j'ai regardé son témoignage. Son église, dans le témoignage, le reportage dure à peu près 8 minutes. Et dans le reportage, il te montre comment ils ont commencé. Un pasteur blanc au Zimbabwe. Tu vois ce monsieur au milieu de tous ces noirs. Et comment il allait évangéliser dans les rues. Et tu les vois comment ils avaient commencé. Et ils avaient eu la sagesse de filmer et de prendre des photos à cette époque. Et c'était encore en noir et blanc. Et tu vois comment ils ont commencé. Et puis ils t'expliquent dans le film comment ils ont commencé à construire leur première église. Et tu vois que leur première église qu'ils avaient construite en bois. Et après, ainsi de suite, ainsi de suite. Et tu vois comment ils étaient dans les rues, comment ils priaient pour les gens. Et tu vois les gens qui témoignent dans l'église, dans le reportage, qui disent que le pasteur, là, quand il est arrivé dans les villages, on le prenait pour un fou. Il venait nous parler de Jésus. Et il était là seul avec sa femme et ses deux enfants blancs. Et puis il annonçait l'évangile, etc. Et aujourd'hui, quand tu vois l'église, ya. Une méchante église. 30 000 personnes, ce monsieur. Et quand tu vois le bâtiment, c'est juste solennel. Et c'est une des plus grandes églises de Zimbabwe. Et je regardais ce reportage parce qu'il fêtait cette année les 30 ans du ministère. Et tu vois l'église, mais quand tu vois comment ils ont commencé, c'est pour ça que beaucoup vous arrivez, vous regardez et vous dites, oh, il n'y a rien. Moi, je t'annonce qu'on commence aujourd'hui. Tu le verras demain. Ah, mais c'est pour ça qu'il faut continuer à travailler. Alléluia. Donc, celui qui regarde à la réalité de la vie ne s'aimera pas. Celui qui regarde à la vérité de la parole de Dieu s'aimera et travaillera ensuite, récolter avec abondance. Celui qui regarde ce qui se passe autour de lui ne s'aimera pas. Celui qui regarde à la richesse et à la bonté de Dieu récoltera. Pourquoi? Parce que la foi est ce qui motive la semence, la moisson est ce qui motive le travail. C'est parce que je vois ce que je vais moissonner devant que je travaille. J'ai suffisamment d'endurance. Suffisamment d'endurance parce que je vois la moisson, parce que je sais ce que je vais récolter demain. Sans la foi, il n'y a pas de semence. Sans travail, il n'y a pas de récolte. Il faut travailler. Dis avec moi, il faut travailler. Mais avant de travailler, sème de ton argent, sème de ton temps, sème en amour, sème en passion, sème en relation, sème en énergie, en effort, sème. Plante des graines sacrificielles. Travaille jusqu'à ce que ça commence à porter du fruit. Alléluia. Il y a une différence entre celui qui s'attend à récolter du maïs et celui qui s'attend à récolter un baobab. Celui qui s'attend à récolter un baobab ou bien un okoumé, il sait que ce qu'il a planté là, ça va prendre du temps pour que ça pousse. Le maïs, en 3 mois, ça a poussé. Et beaucoup d'entre nous, on vient avec la mentalité où on veut récolter les maïs. On veut récolter vite. Et quand on voit rien arriver, on dit, oh, c'est pas vrai. Mais celui qui a un grand rêve, quand il plante, même si ça prend des années, il sait que ça va produire. Alléluia. Oh oui, il sait que ça va produire. Et Jésus-Christ nous dit que quand vous faites ça, quand vous travaillez et quand vous semez, faites-le de manière intelligente. Et je finis avec notre parabole du début. Jésus-Christ nous dit, dans le livre de Marc, quand il finit la parabole du semeur, il dit, écoutez, mes enfants, un semeur sortit pour semer. Il sema dans une terre pierreuse, etc., etc. Et il finit en disant, une autre partie tomba dans la bonne terre, elle donna du fruit qui montait et croissait, et elle rapporta 30, 60 et 100 pour 1. Ça, c'est une partie, par exemple, que tu ne comprends pas. 30, 60 et 100 pour 1. Tu te dis, mais pourquoi 30, 60 et 100 pour 1? Il prend simplement l'exemple de celui qui sème 30. Celui qui sème 30, il sème une fois, il récolte 30. Celui qui sème, qui a déjà semé 30 et qui sème encore 30, il récolte le double, 60. Celui qui sème 30, qui a déjà semé 60 et qui sème encore 30, Jésus-Christ dit qu'il récolte 100 moins 1. Là, tu te dis, mais 30 plus 30 plus 30, ça ne fait pas 100, ça fait 90. Non, ça fait 100 moins ta dîme. C'est pour ça qu'il dit 100. D'accord? Parce que tu as déjà enlevé la dîme. Tu me suis? Il faut oublier la dîme. Hein? Là, tu dis, c'est pour moi les 100. Tu dis, non. C'est 100, mais en fait, c'est toi qui touches 90. Et il dit 100 pour 1. Alléluia. Celui qui sème 30 récolte 30. C'est l'addition. Il a semé quelque chose qui a été additionné à ce qu'il avait. 1. Celui qui a déjà semé 30, il récolte la multiplication. C'est multiplié par 2, 60. Et celui qui a déjà semé 60, qui sème encore 30, il récolte l'exponentielle. 100, la plénitude. Alléluia. Ceux qui n'ont jamais semé, vous allez récolter l'addition en 2017. Ceux qui ont déjà semé, vous allez récolter le double. Et ceux qui ont semé beaucoup, vous allez récolter l'exponentielle. Alléluia. Oh, est-ce qu'on peut encore bénir le Seigneur et acclamer bien fort? Est-ce que les chants peuvent déjà monter? Je suis en train de te montrer ici que la clé, c'est la loi de la semaille et de la moisson. Paul nous dit, la Bible nous dit que, la Bible de Jésus-Christ nous dit que celui qui sème 30 récolte, additionne ce qu'il avait déjà, ce qu'il n'avait pas et ce qu'il avait déjà. Celui qui a déjà semé 30 récolte le double, la multiplication. Celui qui avait déjà beaucoup semé récolte encore beaucoup plus. Abraham n'avait qu'un fils. Il a semé Isaac. Il a récolté l'addition. Dieu lui a donné un fils. Isaac, son père avait déjà semé. Lui aussi, il sème. Et la Bible dit qu'il est devenu fort riche. Jacob, son père avait déjà semé. Son grand-père avait déjà semé. Lui, la Bible dit qu'il est devenu riche, allant s'enrichissant encore plus. Lui, il a récolté l'exponentiel. Alléluia. Ici, c'était juste une formule mathématique que Jésus-Christ était en train de nous donner. Amen. Donc, semer dans une terre aride, c'est de la folie. La bonne terre n'est pas celle qui produit en apparence, mais celle où Dieu t'instruit de semer. Ce n'est pas parce qu'on te dit qu'ici c'est bon que c'est là qu'il faut semer. Sème là où Dieu te dit sème. Alléluia. Donc, l'investisseur intelligent, il sème sur instruction divine dans une terre où il est sûr de son retour sur investissement. Et figure-toi d'une chose, c'est que la sécheresse n'est pas toujours synonyme de stérilité. Elle peut être aussi le signal qu'il est temps pour toi de semer. Car beaucoup d'entre nous, on est toujours dans la sécheresse depuis longtemps. Et on ne comprend pas pourquoi le fruit ne sort pas, pourquoi on ne prospère pas. Regarde ces derniers temps, ces derniers mois, ces dernières années, tu vas te rendre compte qu'il y a longtemps que tu as fait une semence sacrificielle pour Dieu. Alléluia. Ouais. Ce n'est pas toujours le synonyme qu'il n'y a rien. Parfois, Dieu veut que tu commences à activer ta foi. Et si le Seigneur nous emmène dans la saison de la moisson, il veut commencer à bouger, bouger les lignes. Il veut commencer à faire sortir le fruit. Mais pour ça, on doit lui apporter quelque chose. Alléluia. Dieu n'a pas besoin de notre argent ou de ce qu'on lui apporte. C'est pour nous qu'on fait ça. Parce que c'est comme ça que fonctionne le royaume. Le royaume fonctionne avec le principe du donner pour recevoir, du semer pour récolter et moissonner. C'est ainsi que fonctionne le royaume. Nous, on vient dans l'église avec la mentalité du monde où on s'attend d'abord à recevoir pour pouvoir donner. Dieu dit non, il faut d'abord que tu donnes quelque chose. Donc Dieu te demande, qu'as-tu à apporter? Il y en a, ce sera de l'argent. Il y en a un autre, ce sera autre chose. Mais Dieu dit, apporte quelque chose. Pour certains, pour quelqu'un d'autre, ce sera un acte de foi qu'il va poser. Il va surpasser sa peur et il va y aller. Il va marcher plus vite en s'attendant à une récolte surnaturelle. Alléluia. Oh, Ramahaderebo, Stakatayaba. Un jour, Paul nous raconte cette histoire concernant les Philippiens. Dans le livre de Philippiens, au chapitre 4, au verset 13, Paul dit, je peux tout dans la communion de celui qui est la source de ma force, ou encore je puis tout par celui qui me fortifie. Je parle ici avec la Bible, la Bible, parole vivante. Pourtant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse et de me secourir. Vous savez bien, chers Philippiens, que dans les premiers temps de mon activité missionnaire, lorsque j'ai quitté la Macédoine, aucune église n'a participé à mon entretien. Aucune ne s'est associée à moi en m'ouvrant un compte de crédit et de débit. Vous seul y avez pensé. Dès mon séjour en Thessalonique, vous m'avez envoyé par deux fois des dons pour subvenir à mes besoins. Ce n'est pas que je tienne à recevoir des dons de vous. Ce qui m'intéresse, ce sont les fruits que vous offrez ainsi à Dieu et qui sont portés à votre actif. Pour le moment, j'ai tout ce qu'il me faut et même du superflu. Depuis qu'Épaphrodite m'a remis vos dons, je suis comblé. Je vis dans l'abondance parce que Dieu vit dans l'abondance. Il n'a pas besoin de notre argent. Vos présents étaient pour moi le doux parfum d'une offrande agréable à Dieu. D'ailleurs, mon Dieu, et c'est ce que je te dis aujourd'hui, subviendra pleinement à tous vos besoins selon la richesse glorieuse manifestée en Jésus-Christ. En d'autres mots, ce n'est pas pour moi que vous semez. Ce n'est pas pour moi, ce n'est pas pour l'église, ce n'est pas pour tes parents, ce n'est pas pour le pasteur. Tu sèmes parce que tu as compris la parole et tu te dis, Seigneur, je vais faire un sacrifice et je vais t'apporter cette année ça. Et Dieu me dit, si tu veux voir ce peuple opérer à une dimension de faveur, il faut que tu les emmènes dans cette dimension-là. Il faut qu'ils comprennent ça. Ça va leur coûter. Ça va faire mal. Mais il faut penser à la récolte qu'il y a derrière. Parce que derrière, la récompense, elle sera grande. Elle sera grande, la récompense. 2017, c'est l'année de la moisson. Pas l'année de la galère, du statu quo, ou bien celle où on retourne en arrière. Non, 2017, c'est la saison où on moissonne. C'est la saison où on progresse. C'est la saison où on récolte. C'est la saison de l'addition pour ceux qui sèment pour la première fois. C'est la saison de la multiplication pour ceux qui ont déjà semé. Et celle de l'exponentiel pour ceux qui ont déjà donné beaucoup. Moi, j'ai donné beaucoup et je m'attends à l'exponentiel au nom puissant de Jésus-Christ. Et j'annonce de manière prophétique que pour toi cette année, ce sera la multiplication, l'addition et l'exponentiel au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Et le Seigneur nous dit dans le livre de Deutéronome chapitre 28, voici ce qui arrivera à tous ceux qui comprendront cela et qui s'aimeront. Voici Deutéronome 28 verset 2, 8 et 11. Toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. J'annonce de manière prophétique que les entrepreneurs, cette saison, vous allez récolter au nom de Jésus. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Ton pays, c'est ton territoire, c'est ton secteur d'activité, c'est le domaine où Dieu t'a planté. Et Dieu dit que c'est là où il va te bénir. L'Éternel te comblera de bien en multipliant le fruit de tes entrailles, les dons, les talents, créativité, l'innovation. Dieu va multiplier ça. Le fruit de tes troupeaux, tout ce que tu as comme actif, Dieu dit que je vais multiplier ça. Le fruit de ton sol, si tu avais peu, Dieu dit que maintenant cette année tu opères dans l'abondance au nom de Jésus-Christ. Dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner, l'Éternel t'ouvrira son bon trésor au Gabon. Ce pays appartenait à mon père. Mon père a été ambassadeur du Gabon dans ce pays. Je déclare et je décrète que ce pays est pour la maison du baptiseur et pour tout le ministère. Au nom puissant de Jésus-Christ, je prends ce pays pour la gloire de Jésus-Christ. Le ciel pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Et tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras pas. Au nom de Jésus, est-ce que quelqu'un peut se lever et acclamer le Seigneur bien fort? Je le décrète sur
ce que je déclare au nom puissant de Jésus. Si addition, multiplication, exponentielle. Si je prophétise que oser entreprendre va se multiplier. Je prophétise que la maison du bâtisseur, tu te multiplies au nom de Jésus. Je prophétise que celles qui n'enfantaient pas, maintenant vous enfantez au nom de Jésus. Makata ebo sakata. Yes. Moisson et signe.
Moisson, signe et miracle.
Que quelqu'un qui s'attend à moissonner acclame le Seigneur bien fort. Alléluia. Korababa. Est-ce qu'on peut faire du bruit et acclamer encore bien fort le Seigneur? Merci Seigneur.
Nous espérons que vous avez été richement édifiés par cet enseignement. Pour plus d'informations au sujet de l'église La Maison du Bâtisseur, vous pouvez vous rendre sur notre site internet www.lamaisondubâtisseur.com. Si vous désirez avoir d'autres produits enregistrés à La Maison du Bâtisseur, vous pouvez soit commander directement en ligne ou téléphonez-nous au 04 65 60 56 ou envoyez-nous votre demande par email à l'adresse suivante contact@lamaisondubâtisseur.com. À très bientôt et que Dieu vous bénisse.